Bonjour, Nicole Silbert au micro pour l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le dire. Je vous rappelle que cette association est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Notre permanence est ouverte du lundi au jeudi de 13h à 16h. Vous pouvez également nous joindre effectivement au 01 47 07 39 55, je répète, le 01 47 07 39 55. Vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr et nous retrouver sur Facebook où nous passons régulièrement des articles concernant les violences faites aux femmes. Nous reprenons un cycle d'émissions concernant la législation sur les violences conjugales avec maître Céline Marcovici et avec maître Catherine Perel-Mutter. Vous faites toutes les deux partie d'avocats femmes et violences et un guide a été rédigé, le guide juridique des femmes victimes de violences. Cette semaine, nous allons parler, après avoir parlé la dernière fois du dépôt de plainte et de ses conséquences, nous allons aujourd'hui, peut-être reprendre un peu le dépôt de plainte et surtout les moyens d'action devant le juge aux affaires familiales, et nous allons enchaîner sur le divorce pour les femmes qui subissent des violences conjugales et qui souhaitent divorcer, et les conséquences et quelles sont les protections à l'égard des enfants, puisque bien sûr, les enfants sont témoins de ces scènes et qu'il faut envisager, bien évidemment, en tout premier lieu, leur protection. Donc, je ne sais pas laquelle d'entre vous veut commencer.
Peut-être je pourrais commencer pour, à propos des rendez-vous que j'ai avec les femmes qui me sont envoyées par l'association Noah. Je dois constater, malheureusement, que beaucoup de femmes sont venues me consulter pour un premier rendez-vous. Parfois, elles avaient même déposé des mains courantes, mais c'est vrai que je ne les ai jamais revues et donc elles n'ont jamais déposé plainte, je crois. Et c'est vrai que c'est un peu dommage et peut-être est-ce dû à une sorte d'omerta un petit peu dans notre milieu, dans notre communauté juive. Et c'est vraiment dommage parce que l'arsenal judiciaire existe, comme nous allons le démontrer tout à l'heure.
D'accord. Maître Céline Marcovici, alors expliquez-nous un petit peu, enfin même plus que ça, comment se passe le divorce ?
Alors oui, effectivement, je ne reviendrai pas sur la plainte. Je rappellerai néanmoins la nécessité pour une femme victime de violence d'aller déposer une plainte au commissariat, et d'ailleurs à n'importe quel commissariat. C'est pas forcément le commissariat de la ville où elle réside, hein, ça peut être n'importe quel commissariat. Ensuite, le commissariat en question va transmettre cette plainte au commissariat territorialement compétent, c'est-à-dire le commissariat de son domicile. Donc je rappelle cette nécessité de déposer une plainte et non une main courante pour que cette plainte puisse déclencher les poursuites judiciaires et permettre la protection de cette femme victime de violence. Ça, c'est sur le volet pénal. Mais parallèlement, il existe des moyens d'action devant le juge aux affaires familiales. On avait rappelé la dernière fois le dispositif de l'ordonnance de protection qui existe depuis juillet 2010 et qui a été renforcé en août 2014 par une nouvelle loi. Alors effectivement, cette ordonnance de protection va essentiellement permettre, et c'est tout l'intérêt de ce dispositif, va permettre de solliciter devant le juge aux affaires familiales pour une femme victime de violence, qu'elle soit mariée ou non, c'est-à-dire pacsée, concubine, va pouvoir solliciter l'éviction du conjoint violent. Outre les autres mesures possibles qui sont notamment, donc il y a certaines mesures qui sont similaires au divorce, c'est-à-dire toutes les mesures qui vont concerner les enfants, la fixation de la résidence habituelle, fixation de la contribution alimentaire pour l'enfant. Ces mesures, dans le cadre de l'ordonnance de protection, il est nécessaire de les rappeler, elles ont une durée limitée. Donc effectivement, en 2010, cette durée était de 4 mois. Elle a été allongée néanmoins depuis août 2014 à 6 mois. Néanmoins, ça reste temporaire. Alors, effectivement, la loi prévoit toutefois que ces mesures peuvent être renouvelées à condition que la femme victime de violence dépose durant ce délai de 6 mois soit une requête en divorce, soit une demande de séparation de corps, ou alors pour les femmes qui ne sont pas mariées, une requête devant le juge aux affaires familiales qui va devoir statuer sur les fixations de l'autorité, sur la fixation de l'autorité parentale des enfants.
Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais on s'aperçoit souvent dans les appels qu'on a que c'est la femme qui part du domicile conjugal. Parce que souvent, les délais d'éviction du mari sont très longs. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est exact ?
Alors, tout dépend. J'ai envie de dire que chaque cas est différent. Effectivement, il peut y avoir une éviction dès le cadre de la procédure pénale, c'est-à-dire dès le dépôt de plainte. Les officiers de police judiciaire vont pouvoir, notamment en cas d'extrême violence conjugale, placer notamment, ça va commencer par la garde à vue. Ensuite, il peut être placé en détention provisoire, notamment dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ou si une instruction est menée. Donc, tout au long de l'enquête, si vous voulez, il y aura des mesures d'éviction qui seront prévues. Et quand bien même ça sera... Alors, il n'y aura pas de poursuite à proprement parler, mais de ce qu'on appelle de mesures alternatives aux poursuites ordonnées par le procureur, lui-même peut ordonner l'éloignement du conjoint violent. Ça, c'est sur le plan pénal. Après, sur le plan civil, effectivement, nous avons des délais impératifs de procédure, donc qui ne permettent pas au juge aux affaires familiales de prendre... Alors, il y a quelques... on peut obtenir des dates, bien évidemment, très, très rapidement, mais néanmoins, il existe toujours ce laps de temps où la femme victime de violence va être confrontée à ce retour au domicile et à cette période d'attente en attendant l'audience devant le juge aux affaires familiales. Néanmoins, on le recommande quand elle a la possibilité. Et il existe des associations qui permettent l'hébergement de la femme victime de violence avec ses enfants.
Alors, au point numéro 10 de votre guide, la question est la suivante. Si je ne suis pas satisfaite de la décision rendue, ai-je un recours ?
En matière d'ordonnance de protection,
oui,
par exemple ?
Oui.
Alors oui, effectivement, il y a un délai, donc le délai d'appel, qui est de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance de protection. En revanche, ce que je tiens à préciser, c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé, dans le cadre du divorce, lorsque la femme va déposer, par l'intermédiaire de son avocat, puisque c'est obligatoire, lorsqu'elle va déposer la requête en divorce en vue de l'audience de tentative de conciliation, en fait cette audience se tient dans le cadre d'un divorce dit contentieux, c'est-à-dire lorsqu'on n'aboutit pas à une solution amiable entre époux. Donc dans le cadre de cette procédure de tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales va pouvoir fixer les mesures provisoires, mais en attendant, on sait très bien que les délais sont longs, qu'on n'obtient pas une date tentative de conciliation très rapidement, il existe néanmoins une possibilité qui est prévue par le Code civil, c'est l'article 257. Alors ça, c'est essentiellement en matière de divorce, donc pour les époux, il existe ce qu'on appelle les mesures dites urgente. Alors, c'est une procédure particulière parce que c'est une procédure qui est dite non contradictoire, c'est-à-dire qu'elle sera pas, elle aura lieu uniquement en la présence donc du juge aux affaires familiales, de la femme victime de violence et de son avocat, mais le conjoint violent ne sera pas à cette audience. Et là, dans ce cadre-là, effectivement, le juge va pouvoir statuer d'une part sur la résidence séparée des époux, mais ne va pas pouvoir ordonner, à la différence de l'ordonnance de protection, l'éviction du conjoint violent, donc ça n'a pas une force contraignante, si vous voulez, et va pouvoir statuer notamment sur la pension alimentaire à l'égard de l'épouse, mais également sur la fixation de l'autorité parentale. Juste parce que vous me parliez des délais pour contester une décision qui ne serait pas satisfaisante, en matière de mesures urgentes, il n'est pas possible d'intenter une voie de recours, donc un appel à l'encontre de la décision qui sera rendue par le juge aux affaires familiales.
Bien, nous allons faire une petite interruption musicale et ensuite Maître Catherine Perel-Mutter nous parlera du divorce proprement dit.
Shuv olechet berotchild, kvar lo ichpat li im tavo. Shuv olechet berotchild. כבר לא אכפת לי לחזור ולזכור שוב שומעת שירים שאהבת בלי להעביר תחנה וכשמישהו בדלת כבר לא מחזיר הפעימה טיפה טיפה אני חוזרת לעצמי טיפה טיפה. 95 דקות סרט, לגמרי שכחתי אותנו, השחקן לא הזכיר לי אותך, הסיפור לא מזכיר את שלנו, והמספר אצלך אני כבר לא בטוחה אם נגמר בשבע או שתיים, וככל שאתה נעלם שוב זורם לי הדם לעל חיים. טיפה טיפה אני חוזר ברוטשילד, כבר לא אכפת לי לחזור ולזכור, שוב שומעת שירים שאהבת בלי להעביר תחנה, וכשמישהו בדלת כבר לא מחסיר הפעימה.
Nous reprenons l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le dire. L'association est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, le 01 47 07 39 55. Également consultez notre site internet noahosezledire.fr et nous retrouver sur Facebook. Je reçois aujourd'hui maître Céline Marcovici et maître Catherine, décidément je ne veux pas le dire, Catherine Perel-Mutter. Vous faites toute partie de l'association Avocats Femmes Violences et un guide a été rédigé, le guide juridique des femmes victimes de violences. Donc vous nous expliquiez tout à l'heure, maître Marcovici, les mesures en ce qui concerne les ordonnances de protection, et ce que l'on voulait faire en deuxième partie avec maître Catherine Perel-Mutter, c'est voir surtout les conséquences du divorce sur les enfants. Parce que c'est extrêmement important. Donc, je vous laisse la parole.
Merci. Alors, je voudrais faire un parallèle entre la situation de la douleur des enfants et l'enfant au cœur de la violence conjugale. Jusque dans les années 1980, la douleur des nouveau-nés n'était absolument pas prise en compte. On pensait qu'il y avait une immaturité du système nerveux des enfants. On leur faisait des opérations sans anesthésie. Et en 1980, il y a eu des recommandations internationales, francophones, qui ont dit qu'effectivement, il y avait une réelle souffrance des enfants, une souffrance physique. En ce qui concerne l'enfant au cœur de la tourmente conjugale, ça suit la même évolution. L'enfant témoin est devenu en fait l'enfant victime. C'est-à-dire qu'un enfant qui assiste à une scène de violence conjugale n'est pas seulement témoin, mais il est réellement victime. En fait, il est victime à double titre. il est victime d'abord par ricochet, c'est-à-dire par rapport à ce qui est fait à sa mère, il est blessé psychiquement de ce qui arrive à sa mère. C'est un premier préjudice qu'on appelle préjudice par ricochet. Et il est victime directement puisque ça lui porte préjudice parce qu'il a très peur et qu'il est véritablement traumatisé. Je crois que les Israéliens d'ailleurs, à propos du préjudice direct des enfants, ont même parlé de stress post-traumatique, mais surtout ils ont dit que le stress post-traumatique d'un enfant qui assiste à une scène de violence conjugale est le même que celui des victimes d'attentats. C'est dire la profondeur et l'ampleur du traumatisme vécu par les enfants qui assistent à une scène de violence conjugale. Alors, en ce qui concerne leur protection, l'arsenal judiciaire existe véritablement. Il y a des mesures, des articles de loi qui sont prévus par le Code civil. Par exemple, l'article 373.2.11 du Code civil prévoit plusieurs critères pour que le juge statue sur l'autorité parentale, sur le droit de visite et d'hébergement et sur la résidence. Et notamment, il y a un critère qui prend en compte donc les pressions ou violences physiques et psychologiques qui sont faites par l'un des deux parents sur l'autre. Donc véritablement, le juge peut, avec cette loi du 10 juillet 2010 et la loi de 2014, se servir de l'arsenal judiciaire, mais le problème en réalité, c'est que dans la pratique, il est souvent un peu parasité par des fausses croyances. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, il sacrifie l'enfant au nom de la coparentalité. C'est-à-dire que pendant longtemps, les juges ont considéré qu'un homme violent pouvait être un bon père. Aujourd'hui, actuellement, les professionnels de l'enfance, ceux qui travaillent beaucoup avec les enfants, les associations féministes également, disent qu'un homme violent ne peut pas être un bon père, puisque déjà, le fait pour l'enfant d'assister à la scène de violence conjugale, c'est un véritable traumatisme qu'il subit. Donc effectivement, le problème, c'est qu'il faut que les mentalités évoluent, les mentalités de la société civile, les mentalités des professionnels et notamment des juges, parce que le juge peut très bien écarter un père violent. C'est-à-dire que, par exemple, il peut accorder l'autorité parentale à la personne qui n'est pas donc auteur des violences. Il peut, d'après la loi, supprimer le droit de visite et d'hébergement du père, puisque le motif pour supprimer ce droit de visite et d'hébergement est un motif grave, et la violence, ça peut être tout à fait effectivement un motif grave. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, en ce moment, les juges sont très près des droits des pères et ne veulent absolument pas, disons qu'ils essayent d'éviter le plus possible l'éloignement du père, et parfois il est difficile de faire comprendre à un juge que le droit de visite et d'hébergement, ou en tout cas même le droit de visite d'un père, peut être tout à fait préjudiciable. Alors il y a une autre mesure aussi qui peut être ordonnée par un juge aux affaires familiales, c'est le droit de visite médiatisé dans un centre, dans un point rencontre. Alors la nouvelle loi a même prévu quand il y a des difficultés de passation entre les deux époux, de passer par exemple par un centre de médiation, juste pour la passation de l'enfant de l'un des deux, d'un parent à l'autre. Et donc ce droit de visite médiatisé existe et peut être ordonné, mais il faut savoir que ce droit de visite médiatisé a une durée, ça ne peut pas être toute la vie quand même. Donc en général, j'ai une affaire où ça a été déjà renouvelé 3 fois, c'est beaucoup, parce qu'en général, on leur donne un petit peu, mais ensuite, c'est vrai que si le père est extrêmement violent, le plus indiqué, c'est quand même l'autorité parentale exercée uniquement par le parent qui ne sera pas violent. Alors donc, on s'aperçoit en regardant finalement l'arsenal judiciaire que tout peut être fait. Mais c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup la culture de la réconciliation. Les éducateurs veulent toujours concilier les deux époux, même s'il y en a un qui est très violent. Et finalement, c'est plutôt parfois une question de mentalité qui empêche les juges de prendre les bonnes décisions.
Alors, j'imagine que quand il s'agit d'enfants en bas âge, en général, les enfants sont confiés à la mère.
Alors, maintenant, ça change un peu parce qu'avec la loi sur la résidence alternée qui a été introduite par la loi, je crois, du 4 août 2002, les mentalités changent. Et moi, j'ai déjà eu dans une affaire une décision tout à fait absurde, à savoir qu'un bébé était changé trois fois de résidence dans la même semaine. Donc, c'était pour vous dire l'absurdité de la décision. Et véritablement, ça n'avait aucun sens, puisque un bébé de 2 ans qu'on change trois fois par semaine de résidence, c'est quand même pour le moins tout à fait incohérent et évidemment contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce qu'il faut savoir aussi que quand un juge aux affaires familiales statue en matière familiale, un des arguments qui doit être invoqué, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais le problème, parfois, c'est que l'intérêt supérieur de l'enfant a bon dos et on met beaucoup de choses dedans qui ne ressort pas vraiment de l'intérêt de l'enfant, mais plutôt de l'intérêt de l'un ou de l'autre parent.
Et alors, est-ce que pour des enfants qui sont plutôt adolescents, c'est-à-dire qui ne sont pas des enfants en bas âge, ils peuvent être entendus par le juge pour donner un peu leur avis ?
Tout à fait. Alors en fait, en France, le critère de l'audition de l'enfant, depuis la dernière loi, c'est le critère du discernement. C'est-à-dire qu'un enfant capable de discernement peut être auditionné par le juge aux affaires familiales et même l'audition est de droit. Donc en général, si en cas d'absence de discernement, il ne pourra pas être entendu. Mais s'il est capable de discernement et qu'il en fait la demande, l'audition est de droit.
Mesdames, malheureusement, ça va très très vite. On n'a pas le temps de développer tous les arguments et tous les thèmes des lois qui sont en vigueur. Donc peut-être un jour nous recommencerons une émission pour à nouveau parler de la législation et à nouveau parler du problème des enfants. Pour l'instant, je vous remercie d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors, nous étions à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le Dire, une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous joindre le lundi jusqu'au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55. Consultez également notre site internet noahosezledire.fr et nous retrouvez sur Facebook. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis au mois prochain.